Bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France. Je suis ravie de vous retrouver pour cette revue de presse du mardi 16 novembre 2021. Je vous donne les titres d'actualité. Je vous parlerai en premier de Squid Game. Cette série diffusée sur Netflix depuis le 17 septembre dernier. Il me semble que c'est une série ultra violente qui fait un petit peu des ravages chez les enfants et les adolescents. Je vous lirai donc les conseils d'une psychologue pour enfants et adolescents, justement, Anne-Françoise de Taillandier, qu'elle a donnée sur la plateforme de Famille Chrétienne. Nous allons ensuite prier avec les malades, donc avec l'aide du magazine aussi Prier. Je vous lirai les conseils et les partages d'aumôniers d'hôpitaux qui ont accompagné des personnes en soins palliatifs ou tout simplement en souffrance. Ensuite, je vous présenterai Stéphania Chabatoura, une résistante du goulag. Elle a survécu au service du camp grâce à sa foi. Je vous en dirai plus dans quelques instants. En culture chrétienne, je vais vous parler de « Dieu passe tout près de nous, les saintes aventures de la vie ordinaire » de Bénédicte Delély, paru aux éditions de l'Emmanuel. Je vous lirai un petit intitulé d'un chapitre « L'espérance d'un avenir qui transforme le présent ». Ce sera à la fin de cette revue de presse. Nous commençons cette revue de presse avec cette série culte sur Netflix, Squid Game. Alors peut-être que la plupart de vos adolescents, jeunes enfants la regardent. Je voudrais quand même vous partager donc ce que va vous dire Anne-Françoise de Taillandier dans la mesure où elle invite à la méfiance de cette série. Chez moi, on a appelé le jeu Squid Game le jeu du calamar. En dehors des contours du calamar tracés au sol, vous mourrez. Les premières phrases de la série à succès donnent le ton. Lancé par Netflix le 17 septembre 2021, Squid Game comptabilisait 111 millions de vues à travers le monde 27 jours plus tard. Le meilleur démarrage jamais réalisé sur la plateforme. Le réalisateur sud-coréen Wang Dong-hyuk y raconte, en 9 épisodes, l'histoire de 456 personnes, toutes très endettées, invitées à participer à des jeux d'enfants sur une île mystérieuse. La récompense promise aux gagnants s'élève à 45,6 milliards de won, donc 33 millions d'euros. Elle augmente au fur et à mesure que des participants sont éliminés et les perdants sont exécutés sur le champ. C'est très tentant. Le scénario se veut être une dénonciation des dérives de la société capitaliste ultra-compétitive où la vie n'a aucune valeur sans argent et où les pauvres s'entretuent sous l'œil amusé des riches. Avec des scènes mêlant univers enfantin et violence baignée de sang, la série est quand même interdite aux moins de 16 ans. Ça fait réfléchir quand même. C'est un style d'histoire relativement classique, commente le docteur Marc Valeur, psychiatre et spécialiste des pratiques addictives. Mais elle est intéressante car elle place le spectateur dans une position de voyeur. Celui qui regarde joue le rôle des organisateurs du jeu dans la série, qui prennent plaisir à voir souffrir. Cette violence gratuite s'accompagne de simples jeux d'enfants universellement connus. Donc tout le monde peut s'identifier aux participants. Mais l'histoire mêle réel et jeu qu'elle transforme en son contraire. Mourir dans un jeu, ce n'est pas grave. C'est dans la réalité que la mort est irréversible. Et le problème, c'est que nos jeunes ne sont pas toujours très à l'aise entre la frontière du réel et du virtuel. La série joue sur l'ambiguïté, autour de laquelle elle développe un marketing alimenté par l'engouement qu'elle suscite, qui brouille encore les frontières, je viens de vous le dire, entre réel et fiction. En témoignent les nombreux objets dérivés vendus sur Internet depuis quelques semaines. La série profite elle-même des mots, M-A-U-X, qu'elle dénonce. Elle nous pousse à nous interroger sur notre rapport au spectacle et à l'imaginaire. La recette de son succès semble malgré tout difficile à élucider. Ce jeu entre fiction et réalité devient particulièrement inquiétant lorsqu'il influence les comportements réels, en particulier ceux d'écoliers. Les débordements de très jeunes enfants qui considèrent que leurs jeux sont intéressants uniquement s'ils ont une fin tragique posent des questions d'un autre ordre. Le ministère de l'Éducation nationale a en effet dû appeler à la vigilance contre des dérives de jeux issus de Squid Game apparus dans les cours de récréation. De nombreux enfants semblent avoir vu la série, non seulement sur Netflix, mais également sur des réseaux sociaux comme TikTok, où des extraits sont diffusés. L'alerte a d'abord été donnée par un post Facebook daté du 5 octobre et partagé 39 000 fois. La directrice d'une école belge y informe les parents d'une version violente du jeu, 1, 2, 3 Soleil, auquel les personnages sont confrontés dans le premier épisode de la série et qui se termine en ruée de coups sur les perdants dans la cour de récréation. Le 14 octobre dernier, dans un collège à l'ouest de Toulouse, un élève de 5e a été tabassé par ses camarades alors qu'il participait également à un jeu issu de Squid Game. Si de tels passages de la fiction à la réalité sont encore anecdotiques, le phénomène a de quoi alarmer. Plusieurs psychologues de l'enseignement catholique en ont parlé dans leurs établissements. On a commencé à avoir quelques retours des responsables de vie scolaire dans le Morbihan. Les enfants jouaient à 1, 2, 3 Soleil, mais de façon violente. Bien sûr, le jeu a été arrêté et a suscité une discussion entre surveillants et élèves, explique Basile Olivier, psychologue des établissements catholiques du diocèse de Vannes. La question des jeux dangereux et des conduites à risque dans les cours de récréation n'est pas nouvelle. Gabriel Ozias, psychologue dans le diocèse de Bayonne, rapproche le phénomène Squid Game du jeu Action ou vérité et du jeu du foulard, qui pousse les enfants à enfreindre les interdits et à prendre des risques. Les nouveaux collégiens de la rentrée 2021 avaient, quant à eux, été victimes de la vague anti-2010, apparue d'abord sur TikTok et à l'origine de harcèlement jusque dans les cours d'école. Ces jeux d'enfants détournés posent la question du climat scolaire. Les jeux sont pour les enfants un moyen de défoulement et d'expression, mais les problèmes de bouc émissaire sont récurrents. À l'adulte alors de créer un espace de parole pour médiatiser ces choses-là. Les jeux peuvent être une porte d'entrée pour sensibiliser les enfants au sujet plus large des relations aux autres. Basile Olivier souligne l'importance du débat et de l'échange entre enfants et adultes. D'autant plus qu'en cas de problème, les adultes sont souvent renseignés après coup par les enfants eux-mêmes. Les actions de prévention fonctionnent bien, mais rassembler tous les adultes autour d'une même posture d'écoute et de vigilance est essentiel. Alors c'est sûr qu'on va aborder la fameuse question des enfants seuls face aux écrans. Les psychologues mettent en avant la coéducation nécessaire entre personnel éducatif et parents. L'accès des enfants aux écrans et à des contenus interdits pour leur âge est au cœur de cette problématique. Un avis du Haut Conseil de la Santé publique, remis en mars 2021, souligne une augmentation de la dépendance aux écrans chez les jeunes depuis les mesures liées à la pandémie. En décembre 2019, déjà, l'usage dysfonctionnel d'Internet concernait 13% des adolescents de 12 à 14 ans. Les écrans sont présents partout à la maison et les enfants y ont accès sans que les parents ne se rendent compte de la dangerosité de ce qu'ils regardent. Et ce n'est pas normal. Si les enfants font la différence entre imaginaire et réel, les frontières sont parfois floues. La violence est sur les écrans, or les écrans sont dans le réel. Donc la violence est dans le réel. Basile Olivier met en avant l'excitation et le traumatisme que peuvent provoquer chez les jeunes toute forme de violence à l'écran. Les seuils de tolérance sont différents pour chacun. Les enfants n'ont pas forcément conscience d'avoir peur s'ils ne crient pas devant le film. Ils pensent que cela ne les atteint pas. Mais l'impact traumatique se déclare après coup. Marine Bossu, psychologue de l'enseignement catholique dans le diocèse de Lille, souligne la solitude de l'adolescent face à l'écran de son smartphone. Il prend en pleine face ce qu'il regarde, sans la parole de l'adulte pour réexpliquer les choses. Pour l'enfant, rejouer la scène dans la vie réelle peut alors être une manière de mieux la maîtriser. Cette solitude interroge la qualité des relations familiales. L'écran permet d'éviter le conflit, alors que la confrontation est une étape nécessaire au développement de l'enfant. Il empêche l'ennui, pourtant source de créativité. On ne peut pas faire sans, mais comme beaucoup de choses en termes éducatifs, son utilisation doit être cadrée. Poser des limites. Oui, l'accès des enfants à des contenus illégaux pour leur âge soulève la question des limites que les parents ont à poser et de la manière de le faire. Les logiciels et applications de contrôle parental, grâce auxquels les parents peuvent surveiller les contenus auxquels accèdent leurs enfants, offrent une solution coercitive. Le docteur Marc Valeur insiste cependant sur le fait qu'ils resteront inefficaces si l'enfant n'est pas impliqué dans la mise en place des règles. Il s'agit d'ouvrir un espace de communication pour discuter avec l'enfant et donner du sens à l'interdit, nommer qu'il est là pour protéger. J'explique aux enfants que leur cerveau n'est pas assez mature. On ne leur demande pas de faire des exercices pour des élèves de 16 ans. Les limites d'âge sur Internet vont dans le même sens. Les enfants sont à même de comprendre. Ils ne conduisent pas une voiture à 10 ans. Ils savent que ce serait trop dangereux. Une mère de famille raconte à la psychologue « J'ai accepté que mon enfant regarde le premier épisode de la série Squid Game, à condition que je sois avec lui. Cela permet d'en discuter et de prendre du recul sur les thèmes abordés. La série crée une occasion de parler de sujets actuels tels que le rapport à l'argent, par exemple les excès du capitalisme, la grande désespérance, la notion de consentement et de dignité humaine. Un mal pour un bien. » Et enfin, pour terminer l'article donc de Anne-Françoise de Taillandier, je vais juste vous lire le petit témoignage de Squid Game, donc vu par un prêtre. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube Catholand, le père Simon Deviollet commente la série Squid Game avec un regard chrétien. Sévère avec la série sans la diaboliser, il observe que le synopsis renverse le message évangélique. Le christianisme, c'est un seul homme qui meurt pour que tous vivent dans la vie éternelle. La base. Alors que Squid Game, ce sont des centaines de personnes qui vont mourir pour qu'un seul puisse vivre ou vivoter péniblement. Je sais pas vous, mais moi ça ne me tente, mais alors pas du tout. Le christianisme apparaît par touches successives tout au long de la série. Une présence discrète mais pas si anecdotique pour la Corée du Sud. Il y est cependant présenté de manière très caricaturale. Les seuls chrétiens que l'on voit sont des névrosés, des sans-cœur ou des fanatiques. La série donne enfin une idée totalement biaisée des notions de justice et de liberté. L'application des règles du jeu donne lieu à une justice qui est une totale injustice. Le consentement demandé aux participants et qui permet de tout leur faire subir est bien loin de l'engagement libre et éclairé encouragé par la morale chrétienne. C'était l'article de Anne-Françoise de Taillandier, donc psychologue pour les enfants et les adolescents, donc un article qui est sur la plateforme de Famille Chrétienne. Nous allons maintenant rejoindre nos malades. Comprendre et entrer en relation avec les malades est parfois difficile car nous ne souffrons pas comme eux, nous n'avons pas la même sensibilité à la souffrance, parfois on peut être très démunis, on ne sait pas quel mot employer, quel geste faire. Je vais vous lire des expériences et des conseils d'aumôniers, donc expériences qu'ils ont partagées au magazine Prier numéro 436, donc le magazine de ce mois-ci. L'épreuve de la maladie accroît la soif de spiritualité. Pourtant, quand nous côtoyons des malades, nous hésitons souvent à leur proposer de prier ou de lire la parole ensemble. Comment rejoindre une personne devant Dieu alors que nous ne souffrons pas comme elle ? Aumônier d'hôpital, Sandrine débute sa journée à la chapelle, 20 minutes avec l'évangile du jour. Auprès d'un malade, nous dit-elle, j'ai besoin d'être habitée par le Seigneur. Cette prière matinale me donne la distance nécessaire avec moi-même pour être plus proche de l'autre. La prière avant la visite des malades, que je relis avant de commencer, m'inspire les fondamentaux. Rends-moi transparente à ta présence et apprends-moi à être le sourire de ta bonté. Inspire-moi l'attitude à prendre, les paroles et les silences. Apprends-moi à écouter sans interrompre. Entrer dans la chambre d'un malade, c'est un peu comme se jeter à l'eau, surtout quand on n'est pas du métier aussi. Avec tact, délicatesse et bienveillance, cette visite ne pourra que porter du fruit, aider le malade et nous remplir de lumière. La présence priante, silencieuse, fait du bien, dès lors qu'on se tient proche physiquement de quelqu'un dans une relation très profonde, avance le père Jean-Marie Onfray, responsable du pôle santé à la Conférence des évêques de France. Pour répondre à la soif spirituelle du malade, on peut lui proposer de prier. Et c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Un jour, j'ai compris que je n'étais pas ajustée aux besoins de la personne, témoigne Sandrine. Elle voulait prier la Vierge et je me suis mise à réciter le chapelet. Or, elle avait besoin de sa prière personnelle avec Marie, en ma présence, mais en silence. Jean-Marie, quant à lui, se souvient de la pudeur qu'il a dû surmonter pour proposer à sa grand-mère, atteinte de démence, de prier avec lui alors qu'il ne l'avait jamais vue pratiquer. Après le chant du Salve Regina, elle lui a dit de façon très claire « Merci, merci, merci. Maintenant, je crois et cela ne me quittera plus. » Les possibilités sont multiples. On peut tout simplement commencer par un autre père, un « Je vous salue Marie » ou le cantique de Siméon. Jean-Marie Onfray suggère aussi la prière d'abandon de Charles de Foucauld. Des extraits de la Bible. « Nuit et jour, mes larmes sont mon pain » qu'on trouve dans le psaume 42. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» psaume 22. Prononcer au bon moment. Ces phrases sont susceptibles de rejoindre un malade au plus près de ce qu'il vit. On peut aussi recopier un verset sur une jolie carte et la coller près de son lit. Dominique, 74 ans, aumônier d'hôpital à Strasbourg pendant 15 ans, a pu vivre jusqu'au bout la prière quotidienne avec son mari, atteint d'une sclérose latérale amyotrophique. Pendant 4 ans, alors que ses membres se paralysaient peu à peu, nous avons prié à la maison avec les lectures de la messe du jour. Quand il souffrait trop, on ne lisait qu'un court passage. Dans une totale confiance, ces moments, même courts, furent très forts. Mais auprès de ses parents, Dominique reconnaît avoir dû dépasser une certaine gêne. Avec mon père, qui est mort d'un cancer à la maison, j'ai beaucoup prié. C'est venu petit à petit, en partageant sur les lectures du jour, dans les moments paisibles, puis dans les moments plus difficiles. En ce qui concerne les malades psychiques, une personne qui souffre dans son psychisme a soif de relations. En restant moi-même silencieux, je peux la laisser exprimer sa souffrance. Savoir entendre, c'est « j'en ai assez, je n'en peux plus », cela aussi est prière, reconnaît Jean-Marie Onfray. En lui permettant d'extérioriser sa souffrance, de sortir un peu de son tombeau, je touche du doigt la personne intérieure qui est blessée, dont le cœur saigne. Je peux lui dire que d'autres ont saigné avant elle et lui lire un psaume « Dans la détresse, je crie vers toi, Seigneur ». À la fin de sa journée, Sandrine s'accorde un dernier temps de prière. Dans mon bureau, j'allume une bougie devant une statue du Sacré-Cœur et je dépose symboliquement les personnes dans le cœur de Jésus. Diacre très investi dans la formation, Serge Kerrien prévient les aumôniers d'hôpitaux en leur disant « Si vous n'avez pas des moments de ressourcement spirituel, vous allez dans le mur. Le cœur de votre relation au malade, c'est votre relation au Christ. » Il préconise d'effectuer une relecture de ce qui a été vécu durant les visites. Car le fait d'être confronté à des malades, parfois en situation de désespérance, humainement et spirituellement, ça déplace. Il conseille aussi de méditer l'évangile des disciples d'Emmaüs, que la rencontre avec le Christ fait passer de la désespérance à l'espérance en la résurrection. Pour terminer, je vous lis un petit témoignage. J'ai été aumônier d'hôpital en soins palliatifs et dans une unité Alzheimer. Avant de commencer, j'invoquais l'Esprit Saint pour qu'il m'inspire la bonne manière d'être et de faire. Puis je priais, « Seigneur, sois mes mains, sois ma bouche, sois mon regard. » Dans la chambre, j'avançais délicatement pour découvrir ce qui pouvait aider la personne à trouver la présence de Dieu. Avec une personne atteinte d'Alzheimer, je me suis mise à chanter le Tantum Ergo et elle l'a repris avec moi. J'avais trouvé le canal pour prier avec elle et nous l'avons chanté à chaque visite. Une autre dame, toujours couchée, chantait un cantique breton du Vendredi Saint. Je m'asseyais près d'elle et je l'accompagnais. Il m'est arrivé d'entonner des mélodies en breton et de voir des visages s'illuminer. Prier avec les malades, c'est cela pour moi. Rejoindre la personne sur ce qui fait écho en elle. Une personne malade peut sembler passive. Il faut parfois être le moteur. J'ai souvent été remerciée pour ce moment d'élévation spirituelle. Voilà, témoignage d'Elisabeth Corr en Côte d'Armor. Donc c'était les partages et les conseils d'expérience d'aumônier que le magazine Prier de ce mois-ci a recueilli. Donc tout simplement, prier avec les malades. Je vais vous présenter maintenant Stéphania Chabatoura, une résistante du goulag, qui a compris dans les années 70, c'est déjà la propagande antisoviétique et qui s'est insurgé contre le pouvoir mis en place au nom de la vérité et de la foi. Toujours pareil, dans le magazine Prier numéro 436, je vais vous lire l'article de présentation de Didier Rance, donc sur ce portrait de Stefania Chabatoura. Au début des années 1970, Stefania Chabatoura est une artiste peintre ukrainienne déjà célèbre, militante pour la liberté religieuse et les droits de l'homme. La trentenaire participe à la rédaction d'un bulletin clandestin qu'elle tape sur une vieille machine à écrire, puis diffuse. Le 12 janvier 1972, le KGB l'arrête à son domicile pour propagande anti-soviétique. Le juge d'instruction qui l'interroge est prêt à passer l'éponge. « Donnez-nous des éléments pour condamner les autres et nous vous libérerons. Sinon, ce sera le camp pour vous et de toute façon pour eux aussi. À votre place, je choisirai sans hésiter la première solution. » Stefania lui répond « La voie de la lâcheté pour échapper au camp, ce n'est pas pour moi. » Les sévices qu'elle subit alors dans une cave des services secrets durent 6 mois. Quand elle en sort pour être jugée, sa chevelure de jais est devenue blanche. Elle est condamnée à 5 ans de camp à régime sévère et 3 ans de relégation. Stefania purge sa peine dans un camp de Mordovie réservé aux croyantes. Il s'agit surtout de catholiques baltes, d'orthodoxes vieilles croyantes et de gréco-catholiques ukrainiennes comme elle. Toute une administration pénitentiaire pour une trentaine de femmes. Leur crime ? Avoir demandé le droit d'aller à la messe le dimanche, de rencontrer des prêtres, ou pour celles qui sont mariées, de parler de Dieu à leurs enfants. En effet, ce sont des gros gros crimes, hein, vous me direz. Elles tiennent tête à leur geôlier, prient ensemble et célèbrent clandestinement les grandes fêtes, parfois avec l'aide discrète d'un gardien ou d'une gardienne. Stefania écrit même à Léonid Brejnev pour obtenir une Bible et qu'une loi d'amnistie libère les croyantes qui sont des mères de famille car leurs enfants ont besoin d'elles. Pour la punir, on l'enferme plusieurs semaines dans les terribles cellules d'isolation du goulag par moins 40 degrés, d'où quiconque ne ressort généralement que mort ou fou. Mais, dira-t-elle, la foi et la prière m'ont sauvée. 20 ans plus tard, Stefania est élue députée lors des premières élections libres organisées en Ukraine. Grâce à son action, les catholiques récupèrent leur cathédrale, qui a été confisquée 45 ans plus tôt lors de la liquidation par Staline de l'Église catholique d'Ukraine. Le 7 avril 1991, le soleil se lève quand la première liturgie pascale célébrée depuis des décennies s'achève dans la cathédrale Saint-Georges de Lviv. À 54 ans, la dissidente se tient devant le sanctuaire. Elle confie ce matin-là à un journaliste. « Quand je réfléchis à ce qu'il s'est passé, il me semble que ce changement ne s'est pas fait d'abord grâce à nous, mais avant tout en dehors de nous, et qu'il est sorti d'abord de la volonté de Dieu. Tout ceci montre que la loi véritable de la vie, c'est que ce qui paraît grand ne l'est pas réellement. Et que le plus faible, s'il a la vérité avec lui, est plus fort que le plus fort. La seule vraie force, c'est la vérité. » C'était le portrait de Stefania Chabatoura par Didier Rance, paru dans le magazine Prier numéro 436. Chrétienne, où je vais vous présenter le dernier livre de Bénédicte Delély, Dieu passe tout près de nous, les saintes aventures de la vie ordinaire, donc un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Emmanuel. Je vais d'abord vous lire le synopsis sur la quatrième de couverture et je vous lirai un petit extrait intitulé « L'espérance d'un avenir transforme le présent ». Les visages ou les anecdotes dépeints dans ce livre donnent à contempler la présence de Dieu qui, passant tout près de nous et en nous, illumine toute nuit, transforme les déserts en sources et l'ordinaire de la vie en lieu de grâce et de sainteté. Bénédicte Delély nous entraîne dans une belle aventure spirituelle, celle qui se cache dans notre vie quotidienne. Elle s'appuie sur l'exemple des saints comme sur les situations de chaque jour pour y découvrir, sous le poids des épreuves ou le voile de la banalité, la force de la résurrection déjà à l'œuvre. Alors, je vous lis maintenant un tout petit extrait intitulé « L'espérance d'un avenir transforme le présent ». Lorsque l'on regarde les béatitudes, On est frappé par le temps des verbes. Certaines sont au présent, deux précisément, celle des pauvres et celle des persécutés. Pour eux, il semble y avoir une grâce spéciale, une irruption du royaume aujourd'hui. Quant aux autres, les doux, ceux qui pleurent, les affamés, les miséricordieux, les cœurs purs, ce qu'ils attendent est au futur, sur le point d'arriver, promis à coup sûr. Ainsi, c'est déjà obtenu, mais ce n'est pas fini d'être accompli. Cela doit encore être espéré dans un avenir. Peut-être est-ce une expérience que nous connaissons lorsque nous sommes tristes. Si quelque chose nous fait souffrir et que nous savons qu'il y aura un terme, que la joie triomphera de la peine, la douleur est moins lourde à porter. Elle est présente, mais elle est adoucie, par la promesse des jours heureux. Les béatitudes, en ce sens, nous apprennent la vertu d'espérance. Je me suis souvent demandé pourquoi Rachel, citée au début de l'évangile de Matthieu, au moment du dramatique massacre des innocents, refusait d'être consolée. Tout l'objet de Matthieu est justement de nous raconter l'histoire d'un Messie, d'un consolateur. Et voilà qu'il place au début de son récit une femme en détresse qui ne veut pas être consolée. L'évangéliste rapporte en fait un verset du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur. Retiens le cri de tes pleurs et les larmes de tes yeux. Car il y a un espoir pour ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviendront sur leur territoire. Dans l'évangile de Matthieu, il n'est pas demandé à la mère endeuillée de retenir ses larmes. On la laisse se lamenter sur l'effroyable péché d'Hérode qui a semé la désolation sur la terre pour éviter l'avènement d'un enfant roi qu'il voit comme une menace à son pouvoir. Rachel est le peuple d'Israël brisé dans son espérance par le péché du roi païen. Elle est le peuple des petits scandalisés par la mort qui ne peuvent même plus espérer une consolation sous leur douleur trop vaste. Matthieu ne cite pas la suite de Jérémie. Il reste sur la femme inconsolable. Mais c'est son évangile tout entier qui l'annonce et le proclame. Avec Jésus, il y a un espoir pour ton avenir. Aussi, ce que nous espérons, bien que cheminant encore dans les vicissitudes du temps, nous le possédons déjà dans la certitude de la foi. Pauvres, nous sommes riches. Pleurants, nous sommes consolés. Alors Seigneur, augmente en nous la foi. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du 16 novembre 2021. Je vous redonne très rapidement les titres de l'actualité. Je vous ai d'abord parlé de la série Squid Game qui cartonne sur Netflix. Une série ultra-violente qui sème un petit peu le désordre psychologiquement et physiquement chez les enfants et les adolescents. Je vous ai lu les conseils de la psychologue Anne-Françoise de Taillandier sur la plateforme de Famille Chrétienne. Je vous ai partagé ensuite les conseils et l'expérience d'aumônier, donc intitulée « Prier avec les malades », conseil qu'ils ont donné au magazine Prier numéro 436. Je vous ai ensuite présenté Stéphania Chabatoura, résistante du goulag qui a survécu aux sévices de ce camp grâce à son amour de la vérité et à sa grande foi. Culture chrétienne, je vous ai présenté « Dieu passe tout près de nous, les saintes aventures de la vie ordinaire » par Bénédicte de Lély, livre paru aux éditions de l'Emmanuel, et je vous ai lu à l'instant un court extrait intitulé « L'espérance d'un avenir transforme le présent ». À méditer. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie mardi prochain.